France Inter.
Et à tous, bienvenue dans Grand Bien vous fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Mais pourquoi tu compliques tout? Tu peux pas faire simple, non? Si vous n'avez pas prononcé cette phrase, vous l'avez certainement déjà entendue, à se demander s'il n'y a pas deux catégories de personnes, celles qui se compliquent la vie et les autres. À moins que ce soit un peu plus complexe que cela. Parce que ça veut dire quoi faire simple et pourquoi ce qui paraît compliqué pour les uns ne l'est pas pour les autres? En famille, en amour, à la maison, au boulot, combien de fois nous arrive-t-il de nous prendre la tête, d'avoir l'impression de nous noyer dans un verre d'eau? Et peut-être d'ailleurs que c'est une bonne chose. Et vous, êtes-vous du genre à vous compliquer la vie? N'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000 ou envoyez-nous vos courriels et notes vocales sur l'application de Radio France. Vous pouvez également nous laisser un message sur WhatsApp. Nous sommes le jeudi 17 juillet, vous écoutez France Inter. Grand bien vous fasse, c'est aussi l'été.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
Aimer, c'est souffrir. Et lorsqu'on veut éviter de souffrir, il ne faut pas aimer. Mais alors on souffre de ne pas aimer. Et on peut admettre qu'aimer, c'est souffrir. Que ne pas aimer, c'est souffrir. Et que souffrir, c'est souffrir. En admettant que le bonheur est une conséquence de l'amour. Vouloir le bonheur, c'est souffrir. Mais la souffrance peut vous rendre malheureux. Autrement dit, si l'on veut être malheureux, il faut aimer. Ou aimer, souffrir. Ou bien accepter de souffrir de trop de bonheur. J'espère que vous me suivez.
Non, pas tout à fait. Extrait de Guerre et amour de Woody Allen, un sourire pour débuter cette émission qui porte le même titre que le numéro de Philosophie Magazine « Pourquoi se complique-t-on la vie ?». Trois invités nous ont rejoints pour tenter de trouver des réponses à cette question vertigineuse. Bonjour Martin Legros.
Bonjour.
Directeur de la... directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, ça tombe bien, philosophe aussi, on est ravis de vous retrouver dans ce studio, Martin. Bonjour Héloïse Lérété.
Bonjour.
Directrice de la rédaction d'une autre revue que je conseille grandement, Sciences Humaines, le dernier numéro en kiosque est intitulé « Qu'est-ce qui nous relie à notre enfance ?» Et avec nous également une comédienne que j'aimerais garder dans ce studio tous les jours. Bonjour Marion Musa-Dorian.
Bonjour.
Vous êtes avec nous ce matin avant de partir en courant au Festival d'Avignon parce que vous y jouez ce soir et demain. Votre spectacle Craquage, c'est à la Scala à 19h30. À partir du 23 septembre, vous serez dans le magnifique théâtre de la Pépinière. Ce sera tous les mardis à 19h et la tournée se poursuit également. Marion Musa-Dorian, est-ce que vous ne vous êtes pas un peu compliqué la vie en acceptant notre invitation ce matin, alors même que vous devez partir en courant à Avignon?
Oui, j'avais prévu un discours en disant « Moi, je me complique jamais la vie, mais vous me prenez au piège, qu'est-ce que je fais moi maintenant ?» Alors, se compliquer la vie, non, je suis dans un sprint perpétuel, donc j'ai accepté mon cardio dans cette vie-là.
Voilà, et c'est pas une façon de se compliquer la vie, de mettre tout dans la même journée.
Moi, j'ai l'habitude de remplir l'emploi du temps. Ma psychologue dirait « Oui, oh là là, on remplit pas autant quand même hein. !» Mais oui, effectivement, c'est ma façon de vivre. Mais maintenant, j'arrive un peu à mettre des espaces entre. Par exemple, avec mon train, j'ai 1h30 de plus. Avant, j'aurais pris une demi-heure entre les deux.
D'accord, c'est Byzance, voilà. Mais merci beaucoup, Marion Musa-Dorian, d'être avec nous ce matin. Héloïse Lérété, pour vous aussi, c'était pas si simple que ça de venir ce matin?
Alors, c'était pas si simple, parce que Sciences Humaines est un drôle de journal de diffusion nationale, mais qui est installé à Auxerre, en Bourgogne. Et donc, comme vous m'avez prévenu il n'y a pas très longtemps, j'ai
tout
sauté dans un train. Mais c'était un plaisir. La vie c'est aussi des surprises et des aléas. Il se trouve que je suis aussi une maman qui a trois enfants, que les trois sont en vacances. Donc, j'ai une sensation de liberté que connaissent peut-être un certain nombre de parents en ce moment, qui est assez grand.
Et vous, Martin Legros, combien de moyens de transport avez-vous pris pour nous rejoindre?
J'ai pris une voiture, un train, un vélo, parce que je viens à 50 km près de Fontainebleau, à Damary-les-Lys. Et cela dit, ça complique les choses, mais c'est une complication qui en même temps me permet de rentrer dans le tunnel du début de la journée et d'anticiper toute ma journée. Et je fais ça depuis plusieurs années et je me suis rendu compte que c'était comme une sorte de simplification parce que le transport permet une tranquillité et j'entame ma journée grâce à cela.
Mais est-ce qu'on peut dire que ce sont des stratégies que vous avez utilisées ce matin en venant? Vous avez pris la bonne stratégie. La bonne stratégie, c'était de prendre les trois moyens de transport. Héloïse, la bonne stratégie, c'était de ne pas avoir les enfants, donc ça vous l'avez pas choisi, mais de pouvoir venir. Est-ce que cette façon de se simplifier la vie ou de ne pas se la compliquer, c'est aussi une question de stratégie, Martin Legros?
Alors oui, avant de prendre la question par le bout psychologique, je crois qu'il faut prendre la question par le bout, excusez-moi d'utiliser des gros mots, ontologique. Mais métaphysique. La question, la vie est-elle compliquée? Elle peut être, elle a deux, je dirais, deux abords totalement opposés. Le premier abord, c'est de dire tout simplement que c'est la vie qui est compliquée, que c'est le monde lui-même qui est compliqué. Il est fait d'un enchevêtrement de causes, d'intentions diverses. Voilà, le monde est un enchevêtrement monstrueux. Et sur cette première couche, il se trouve que les humains sont des êtres très particuliers qui en remettent une deuxième couche. C'est quelque chose qu'on voit d'ailleurs très très bien dans le spectacle de Marion. Elle a le grand talent de verbaliser le chaos intérieur que nous avons tendance à surajouter au chaos de nos vies.
C'est ça.
Ce qui fait le charme et l'intérêt, philosophique de ce spectacle, c'est qu'on voit comment ces deux complications s'embranchent l'une de l'autre et créent quelque chose, un craquage.
Oui.
Alors, pour éviter de craquer, je crois qu'il y a des démarches philosophiques, il y a un abord philosophique qui permet non pas de dire « le monde est beaucoup plus simple qu'on le croit et nous devrions être simples et oublier toutes nos complications intérieures ». Non, il y a une manière d'abord de cartographier un peu les difficultés du monde par rapport à vous, on connaît tous des gens qui arrivent à une réunion et qui, en plus de l'agenda du jour, disent « Ah, j'ai crevé mon vélo ce matin
oui. »
et qui en rajoutent quand même cartographier, simplifier, hiérarchiser les difficultés du monde. Et deuxièmement, savoir un peu plus, être un peu plus au clair sur le tempérament qu'on a. Parce qu'on n'est pas tous des optimisateurs, vous disiez, quelle stratégie. On n'est pas tous des optimisateurs qui veulent tout calculer. Il y a des improvisateurs, il y a des optimisateurs, il y a des méthodiques comme Descartes qui simplifient les difficultés. Et puis il y a des gens flexibles qui prennent le monde comme il va. Ce sont toutes des stratégies qui valent. Il faut être au clair sur le tempérament qu'on a de simplificateur par rapport à la complexité ambiante.
Héloïse Lhérété, moi j'ai l'impression que ce qui peut paraître simple ne l'est pas toujours. C'est-à-dire que cette notion de simplicité, en fait, elle est très relative. Ce qui est simple pour vous ne l'est pas forcément pour nous, et inversement, et cette question est très compliquée.
Oui, alors, je reviendrai un petit peu à la dimension, pour vous répondre, ontologique, soulevée par Martin. En fait, la vie est compliquée, d'une certaine manière, à partir du moment où on se lève. On pourrait, comme le personnage mythique de la littérature russe, vous savez, Oblomov, rester toute la journée dans le confort de sa robe de chambre allongée sur un lit dans une forme de bonheur léthargique. Mais personne n'a envie de ça. Donc à partir du moment où on se lève et où on cherche à s'accomplir, au fond, Aristote parlait de la force vitale qui nous meut, eh bien la complexité commence parce qu'il n'y a de mode d'emploi de l'accomplissement personnel pour personne. Donc tout le monde tâtonne, expérimente, échafaude, zigzague, se perd quelquefois, comme dans un labyrinthe, mais ça fait partie en fait de nos stratégies à tous pour se réaliser, s'accomplir et essayer de faire quelque chose de nos vies.
Et alors je ne vous ai pas demandé d'ailleurs dans quel domaine vous avez l'impression de vous compliquer particulièrement la vie, Marion Mézadorian ?
Moi, je pense c'est typiquement ce qu'on a dit. J'ai l'habitude de mettre 15 rendez-vous alors qu'il n'y a que 2 qui rentrent dans la
Donc,
journée.
Donc plutôt dans la vie quotidienne et dans l'organisation de votre temps.
Oui, je m'organise bien, mais j'ai tendance à en mettre trop quand même. Donc il faut assumer le sprint derrière, comme je disais. Mais oui, effectivement, c'est plus ça pour moi, en tout cas.
Héloïse ?
Alors, moi, je vais peut-être vous surprendre, mais je n'ai pas tellement l'impression de me compliquer la vie. Je l'ai fait, mais je suis un peu plus âgée que Marion. Effectivement, je dirais, dans ma jeunesse, étudiante ou jeune professionnelle, où je voulais vraiment réussir ma vie, au fond, j'avais tendance à en faire toujours plus, à en vouloir toujours plus, à essayer d'accumuler de l'être, de l'avoir, du faire, des paroles, jusqu'à un moment où ma vie s'est retrouvée un peu saturée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve plutôt que j'ai trop de travail, trop de responsabilités familiales, professionnelles, trop de sollicitations. Et donc, j'avoue que depuis quelques années, mais comme beaucoup de gens de mon âge, à partir de 40 ans, j'essaie plutôt de simplifier, d'épurer, de renoncer.
Alors, c'est très important. On va y revenir sur cette notion, mais un peu plus tard, sur la notion de soustraction, dont vous parlez beaucoup dans Philosophie Magazine, c'est-à-dire de cette façon de s'alléger aussi, plutôt que de se rajouter des couches qui font qu'on se complique la vie. Martin Legros, vous n'allez pas échapper à la question. Dans quel domaine vous avez l'impression de vous compliquer la vie ?
Alors, je crois que d'abord qu'on est très mauvais juge. On voit très bien comment les autres s'emberdificotent dans d'une série de difficultés, mais on est très mauvais juge de nous-mêmes. On se croit toujours des beaucoup plus grands simplificateurs ou des optimisateurs qu'on ne l'est en réalité. Et c'est pour ça que la vie commune a des charmes, parce qu'on nous renvoie un peu en miroir. Mais si je devais essayer d'être un peu un juge impartial, moi je dirais que par où je me complique la vie, je crois, c'est que j'ai beaucoup de mal à considérer que mes priorités sont des vraies priorités. C'est-à-dire que dès que les autres arrivent en me soumettant une idée, en me proposant de faire ceci, j'ai plutôt tendance à dire oui, parce que c'est toujours assez intéressant. J'ai une vie professionnelle, une vie familiale un peu dans tous les sens, avec plein de choses qui surgissent tout le temps. Et donc, j'ai tendance à prendre... je suis pas du tout. Je connais des gens autour de moi qui ont un plan, qui ne se laissent pas déverrouiller. La journée, elle est pour ça. Elle est pas pour autre chose. Le désavantage, enfin l'avantage de cette ouverture, c'est qu'on s'ouvre à ce qui surgit de chaque jour de nouveau et qu'on n'est pas enfermé dans le plan, dans le calcul qu'on a fait. On se laisse souvent déborder. C'est parfois Marion le.
On donne. J'incarnerai ça dans cette émission dorénavant.
Mais ça rend votre personnage, excusez-moi de le dire, vraiment attachant. C'est-à-dire que ce personnage, il est tout le temps...
Là, vous parlez du spectacle.
Du spectacle, oui.
Je l'ai
vu hier et c'est vrai que ça m'a... Je me suis dit, mais en fait, tu ne le montres pas, mais c'est exactement ce qui se passe dans ta tête. Le personnage.
On voit
un personnage qui est tout le temps en train d'expliquer aux autres, mais en parlant aux autres, de se parler à soi-même, mais en se parlant à soi-même, de s'opposer des choses à soi-même. Et donc, sa vie devient un capharnaüm monumental parce qu'elle se charge de plein de choses. Mais en fait, on est tous comme ça, mais on ne le dit pas.
Ouais.
C'est ça la seule différence. Et les artistes sont là pour nous mettre un peu le nez sur nos difficultés.
Oui, moi, c'est ce qui me plaît en l'occurrence. C'est-à-dire que c'est vrai que je suis ni neuroscientifique, ni docteur, ni historien, mais j'observe mon entourage, ma famille, mes amis. Et je vois effectivement les problématiques qu'on se pose, ce qu'on dit qu'on fait et qu'on ne fait pas. Là où on dit « Ah, c'est compliqué, je me complique la vie ». Non, tu n'as juste pas fait de choix alors qu'il fallait en faire un. Oui, j'ai pas dit à ma mère. Eh ben, il fallait le dire. Voilà, en fait, c'est que ça. C'est ce qu'on ne dit pas.
Eva Rock. Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Annonce, je coupe tout! Tout!
Tu coupes quoi?
Je coupe là, le groupe WhatsApp de la famille, je le quitte! Comment est-ce qu'il s'appelle là déjà, ce groupe de merde? Où il faut liker toutes les deux secondes les conneries des uns, les emmerdes des autres!
Mais la troupe avaloche!
Voilà, la troupe avaloche! Et ben ça dégage! J'en ai plus rien à foutre! Toi là, les photos de ton fils depuis la naissance, en bleu, en rouge, en vert, hein, il mange, il chie, on s'en fout, putain! Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Je t'aime, hein, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tout le monde s'en fout. Ça, personne te le dira. Bah non, évidemment, Noël! Mais vous le faites où vous voulez cette année, je m'en carre Fion!
Oh, Marion!
Ça rime! Marion Fion, c'est super, tu vois? Hein?
Elle craque complètement. Même dans le studio, elle craque, Marion Mésadorion. Extrait de la bande-annonce de votre spectacle intitulé Craquage. Ça vous fait bizarre de vous entendre d'ailleurs ou pas?
J'ai toujours l'impression que c'est quelqu'un d'autre. Oui. Parce que je me dis, mais qui est cette folle? Mais qui est dans cette folle? Et en même temps, je l'envie un peu. Je me dis, oh, j'aimerais tellement dire tout ça.
Parce que vous le dites pas dans la vraie vie.
J'essaie de pas agresser les gens.
Ouais. Mais c'est vrai qu'on se complique souvent la vie en famille. On en parle ce matin dans Grand Bien vous fasse avec vous, Marion Mésadorion, et avec le philosophe et directeur de la rédaction de Philosophie Magazine, Martin Legros, et avec la directrice de la rédaction de Sciences Humaines, Héloïse Léreté. Marion Mésadorion, ce spectacle, il est né après une dispute avec votre mère. Alors, une dispute un peu plus forte que d'habitude, hein. Le ton est vite monté et très fort. Vous vous êtes vraiment posé cette question à ce moment-là? Mais pourquoi on se complique la vie? C'est une question que vous avez formulée dans votre tête?
Je me suis dit... Alors moi, en l'occurrence, c'est vrai que je venais d'accoucher de mon petit garçon, et puis on n'a pas chacune pris nos places au bon endroit. La mère est devenue la grand-mère. La grand-mère, elle n'a pas trouvé sa place. La mère, elle débarquait aussi, elle attendait de l'aide de la grand-mère. Bref, ça a crié. C'est au moment où je devais écrire mon deuxième spectacle. Je cherchais une thématique et le mot craquage m'est venu. Et c'est venu comme ça. Effectivement, oui, je suis allée gratter l'origine. Et c'est vrai que je trouve que quand on n'ose pas dire les choses en temps et en heure, ça rumine, ça implose d'une manière ou d'une autre avec des addictions ou de la solitude, et puis après ça peut exploser, et si ça explose ça peut sortir pas avec les bons mots, pas au bon endroit, pas forcément avec la bonne personne. Donc j'ai cherché un peu comme ça et je me suis rendu compte que oui, on se complique la vie parce que on n'ose pas dire par peur d'exclusion et du jugement.
C'est ça, c'est que pour vous la parole c'est une façon de simplifier la vie. vie.
Oui, maintenant je fais simple. L'emploi du temps est toujours blindé. Mais j'essaie de dire, en temps et en heure, quand quelque chose me chagrine ou m'interpelle, me frustre, je me dis, attends, non, ça va pas. Tu sais que si tu ne le dis pas, demain t'as un torticolis, dans deux semaines t'as une grippe, on s'en sort plus. Et après, on va pas compter. Donc moi, j'ai déjà, comme je disais, la flemme d'être malade. Donc je prends la parole et je me dis, si on n'attend pas, il n'y a aucune raison que j'agresse la personne. Je vais lui dire à la personne concernée, écoute, voilà, ça m'a dérangé, ça m'a blessé, ça m'a pas plu. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as trouvé toi aussi? Qu'est-ce que j'ai fait moi en revanche si, pour te blesser si jamais, machin? Et donc j'ai l'impression que la prise de parole, ça fait tomber les armes des deux côtés. Après, on peut tomber face à quelqu'un qui n'entendra jamais. Hein, ça, c'est sûr,
un peu compliqué de prendre la parole, mais au fond, au bout du compte, ça simplifie quand même la vie. Oh, ensuite, dans les relations avec les autres. J'ai une question un peu plus personnelle. Je ne sais pas si vous pouvez y répondre, mais du côté de votre famille paternelle, on est arménien. Ils ont connu le génocide arménien dans votre famille. Est-ce qu'ils ont eu la possibilité de se poser cette question un jour? Pourquoi on se complique la vie? Vous comprenez ce que je veux dire?
Ah, pas du tout. Ouais. Moi, ma famille arménienne, cette phrase, je ne sais même pas s'ils connaissent les mots en français. Ouais. Ils n'ont pas le temps. Quand on a connu cette histoire-là, on cherche juste à travailler pour avoir des billets et des pièces en retour qui donnent en échange de la nourriture.
Ouais.
Et un toit. Ouais. C'est tout. C'est le seul mouvement qui se passe sur une vie. Je vois mon père et il va avoir 65 ans. Il continue de travailler. Il est épuisé sur les marchés et il ne comprend pas qu'il a le droit de se reposer. Et on a eu encore cette discussion hier. Je dis, papa, là, tu te compliques la vie. Ouais. Tu as le droit de te reposer. Tu travailles depuis que tu as 10 ans sur les marchés. Repose-toi, c'est une autre vie. Tu as largement mérité ce moment de repos, quoi.
Héloïse Lérété, j'ai posé cette question à Marion, mais à Dorian, parce que des fois, je me suis demandé, en préparant l'émission, si cette question de « est-ce qu'on ne se complique pas la vie ?» ce n'était pas une question de riche. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire, riche, entre guillemets, évidemment?
Oui, effectivement. C'est ce que... D'ailleurs, ça a été ma première réaction, c'est-à-dire que je me suis dit, au fond, quand on est dans une logique de survie, on ne se pose pas cette question. En fait, on agit, on fait au mieux. On ne se dit pas, est-ce que ce que je fais est trop simple ou trop compliqué. Mais je crois qu'il faut aller au-delà de cette première réaction. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Martin Legros, c'est qu'au fond, la complexité, elle est inhérente à la vie. Oui. On baigne dans une complexité de toute façon affective, sensorielle, cognitive. C'est même pas la question de savoir si on se complique la vie ou si on se complique pas la vie, mais qu'est-ce qu'on fait de cette complexité? Comment on la traite? Au fond, est-ce qu'on cherche absolument à simplifier? Mais simplifier, ça peut vouloir dire aussi tronquer la réalité. C'est la dimension simplificatrice. Ça peut aller jusqu'à la caricature, ça peut aller jusqu'au faux. Simplifier outrageusement ce réel qui est très complexe. Ou bien, est-ce qu'on essaie de le déchiffrer? Est-ce qu'on essaie de déchiffrer cette complexité? Alors, il y a quelqu'un qui est intéressant de ce point de vue-là, qui est Alain Berthouse. Je ne sais pas si vous l'avez déjà reçu dans cette émission, qui est neurophysiologiste, qui était professeur au Collège de France, qui a travaillé sur cette notion de simplexité, qui montre bien que dans le vivant, il y a cette capacité du cerveau, qui est une forme de sagesse neuronale, à produire des réponses simples à partir d'un réel qui est très complexe.
Ouais,
voilà.
Ouais.
Et c'est ce qui permet aussi de survivre, c'est ce qui permet de décider, c'est ce qui permet d'agir, c'est ce qui permet d'anticiper, ce qui est évidemment fondamental pour tous les êtres vivants, qu'ils aient une situation facile, luxueuse, où ils ont le loisir de se poser des questions philosophiques, ou bien qu'ils soient dans une situation de fragilité, de précarité.
Martin Legros, je reviens sur la notion de famille parce qu'elle est extrêmement importante et vous y consacrez un très long article dans Philosophie Magazine. La famille, c'est vraiment l'espace de tension et de complications. Vous citez notamment Schopenhauer et la métaphore du porc épic. Je veux bien que vous nous la racontiez parce que je la trouve très, très parlante.
C'est une belle image, mais les porcs épics, quand ils sont éloignés, ils sont tout seuls, donc ils se rapprochent, mais plus ils se rapprochent, plus ils se blessent. Manifestement, les porcs épics, ils se touchent, ils se blessent. Et c'est un peu l'image de la vie sociale et de la vie familiale en particulier. Quand on est éloigné de nos proches, de ceux qu'on aime ou de ceux auxquels on est attaché, on se sent un peu seul, on se sent loin d'eux. Et bizarrement, quand on se retrouve, on a tendance à se blesser, à se dire des choses. Pourquoi ? Sans doute parce que la famille est une énorme machine où il y a des places et des rôles préassignés. Nous devons nous faire reconnaître comme des individus derrière ou au travers de ces rôles, et c'est très 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 difficile. Je trouve le passage que vous mentionnez dans votre spectacle où donc cette mère de famille arménienne, j'imagine, donc donne à son fils le nom de Ali, qui est
d'origine... Alors c'est pas
d'origine extra-européenne, et tous ses copines lui disent mais qu'est-ce que tu fais, il va avoir du mal sur un CV, Ali aujourd'hui c'est quand même moins bien que Jean-François, etc. Et là on voit que en même temps c'est sa sœur ou je ne sais ou sa copine, elle dit quelque chose dont qu'elle dit que c'est important, mais elle trouve qu'elle le dit en blessant. Mmh. Et donc, elle ne serait pas blessée si elle ne créditait pas cette femme-là de jouer un rôle important d'attendre d'elle qu'elle reconnaisse qu'elle va être une mère, qu'elle va avoir un enfant, que c'est important. Et donc, en effet, la famille est un concentré de complications, à la fois de complications vitales, puisqu'on doit jouer une pièce de théâtre avec des rôles et inventer en même temps, on doit improviser et se tenir à un programme. C'est les deux éléments moteur de la complexité. C'est-à-dire il y a un programme qui peut partir en vrille si on ne le respecte pas, oui. Mais il y a une nécessité d'improviser et d'introduire du nouveau dans ce programme-là. C'est le noyau de la famille. Donc il n'est pas étonnant que la famille produise de la complication, mais après tout, des familles où tout le monde tient sa place, des repas de famille où tout le monde tient sa place, c'est très ennuyant.
On s'ennuierait.
Et donc, il faut introduire le degré de variabilité dans les rôles préétablis qui permet à chacun de s'inventer sans blesser tout le temps les autres.
Oui, mais d'ailleurs, Marion Mézadorian, dès qu'il y a quand même dispute, conflit, moi je me dis qu'il y a quand même prise de parole, donc il y a quand même peut-être une volonté d'essayer de régler les choses.
Ah oui, ça c'est sûr, de s'alléger, et puis oui, effectivement, tous les non-dits, ça fait du bien. Moi, en tout cas, je remarque que quand je ne parle pas, je mange. J'ouvre mon frigo, mon placard. Ah, il n'y a pas de placard, bah, y a un supermarché, j'ai une carte bleue, génial. Oui, bon, bah, y en a, ils fument, y en a, ils boivent, y en a, ils jouent aux cartes, internet, enfin bref.
Et donc, le frigo est toujours rempli ou...
Le frigo, alors là, il est un peu vide, j'ai essayé de faire la diète, mais... mais j'ai remarqué, quand j'ai écrit le spectacle, que tout le monde compense, même mon frère, qui a un corps d'Apollon, de rêve, je ne sais pas si tu m'écoutes, mais en tout cas sache que même ma psy m'a dit que quand tu fais des abdos à 3h du mat au lieu d'aller te coucher, tu martyrises ton propre corps, mon frère. Donc ça ne va pas. Même le sport à outrance, il faut se reposer.
Alors Marion Mézadorian, vous êtes maman, jeune maman. Est-ce que ça a changé l'ordre des priorités? Et est-ce qu'au fond, vous vous compliquez un peu plus la vie ou au contraire ça vous a permis aussi de mettre les priorités ailleurs et donc de vous alléger?
Ça m'a allégé complètement.
C'est vrai?
Oui, ça m'a fait l'effet inverse. Je pensais que ma vie allait être chamboulée, ça allait être terrible. Et en fait, j'ai dû renoncer à d'autres choses, donc faire des choix. Parce que je trouve que se compliquer la vie, c'est aussi quand on n'ose pas faire certains choix. Et bon, en délaisser d'autres, hein, comme on dit, ça veut dire au revoir à d'autres possibilités. Là, je suis obligée, je suis au pied du mur avec un enfant, de dire au revoir à des possibilités de soirée, d'anniversaire, de plein d'autres choses. Et en fait, il y avait des choses que j'avais plus envie de faire, que je me forçais un peu. Et en fait, cette personne qui est arrivée au monde me fait beaucoup de bien.
Et oui, elle vous simplifie la vie bizarrement, enfin bizarrement, oui. De façon paradoxale par rapport à ce que vous imaginiez.
Exactement.
Héloïse Lérété.
Alors, moi j'en ai trois, donc j'aurai une réponse un peu différente. Hein. Je les embrasse au passage, je vous aime les enfants. disons que quand même, du point de vue de l'organisation quotidienne, quand il faut les amener aux activités extrascolaires, planifier les vacances, les trajets vers l'école, les absences qui s'en occupent, qui va les garder le matin si je suis à France Inter, ça amène une complexité qui est quand même assez faramineuse. Il faut bien reconnaître qu'au plan matériel, au plan de la gestion du temps, au niveau de l'anticipation, non, la vie n'est plus très simple.
J'ai une question pour vous, Héloïse Lérété, mais je ne sais pas si vous avez la réponse, mais je me suis demandé, est-ce que les enfants ont aussi cette capacité à se compliquer la vie, ou c'est un truc de grand ?
Non, les enfants aussi se compliquent la vie, alors de manière sans doute un peu différente des adultes. Les adultes se compliquent souvent la vie parce qu'ils ont tendance à surinterpréter le réel, à trop remplir leur vie aussi par angoisse, par peur de l'ennui, par peur de la mort aussi, parce que l'ennui peut être mortifère, comme l'immobilité. Les enfants se compliquent la vie tout simplement parce parce qu'ils n'ont pas de règles, ils n'ont pas de mode d'emploi, et donc ils ont des pensées beaucoup plus divergentes en fait que les adultes. Vous savez, il y a cette belle image d'Alison Gopnik qui explique que nous autres adultes avons une pensée plutôt, concentrée, focalisée. Nous sommes des lourdes chenilles qui avançons sur le chemin, tandis que les enfants, eux, sont des papillons qui vont plus tard se transformer en lourdes chenilles. Mais pour l'instant, ce sont des papillons dont ils explorent, ils traversent la vie en zigzagant, en voltant. Ça nous agace d'ailleurs parfois parce qu'on se dit, mais il faudrait qu'ils se posent, il faudrait qu'ils se concentrent. Mais en fait, c'est aussi leur manière d'explorer le monde et ça induit un mode de vie, d'action, de pensée, souvent par détour. Et à partir du moment où il y a du détour et on n'agit pas, on pense pas en ligne droite, évidemment, il y a de la complication.
Grand bien vous fasse. Eva Rock sur France Inter.
Alors ça fait 110 francs par tête. Pardon Myriam, ça t'ennuie qu'on partage? T'as pris qu'une salade toi? Eh ben tu vas la payer à part ta petite salade. Hein? Et puis nous on divise le reste, on préfère. Non? On fait le détail? Ça va être simple ça encore, je le sens bien, je sais pas pourquoi. Ok Nicole, je t'écoute, qu'est-ce que t'as mangé ce soir Nicole? Poire ou vinaigrette, oui, combien? 28. Ensuite, tourne d'eau, 72. Après, dessert, pas de dessert. Tant mieux, 8 et le 10, 7 et le 9, 1, 10. 100 francs. T'as drôlement bien fait de faire le détail, hein? Le vin! On n'a pas compté le vin. On a... Plaît-il, Myriam? Tu n'as pas bu de vin? Tu préfères qu'on fasse le détail? Oui. On le fait comment? Au verre ou à la gorgée?
Muriel Robin et son sketch culte de l'addition ou l'art de compliquer une fin de soirée. Sauf que, Martin Legros, le portable a débarqué dans nos vies. Et on fait des additions et des soustractions avec une plus grande rapidité, avec une plus grande simplicité. Exit la nappe en papier et à carreaux. Le numérique nous a simplifié la vie, d'après vous?
Il y a un rêve du numérique de l'optimisation. Si vous voulez aller à un restaurant, vous allez demander à votre application est-ce qu'il est bien noté, est-ce que le chemin pour y aller optimal. Donc le numérique rêve à l'optimisation, c'est-à-dire c'est du calcul, mais c'est pas moi qui fait le calcul.
Oui.
C'est extraordinaire. Donc c'est une promesse extraordinaire de simplification. Si je veux aller au restaurant, un italien, je mets mes préférences et ça calcule pour moi et ça me donne la solution. Le problème, c'est que ça marche pas. Ça marche pas tout à fait. C'est-à-dire que, par ailleurs, un restaurant est parfois d'autant meilleur que c'est vous qui l'avez débusqué, qu'un copain vous a raconté qu'il a rencontré là la femme de sa vie, que, je sais pas, il y a des histoires qui nous mènent, qui font le chemin de la vie. Et tandis qu'un chemin optimisé par une application, il est sans histoire, où les histoires sont dissimulées. Donc oui, il y a ce rêve d'optimisation, mais méfions-en nous, il nous rend beaucoup de services tout de même, il faut le dire. Mais il faut pas tout vouloir optimiser, il ne faut pas que l'esprit d'optimisation, c'est en philosophie, l'optimisateur en chef, c'est Leibniz. Vous savez, il disait que le monde avait été de pour Dieu un. Dieu aurait pu créer plein de mondes possibles et il avait choisi le meilleur des mondes possibles, c'est-à-dire non pas le meilleur en soi. Voltaire lui dira le meilleur des mondes. Non, le meilleur possible, c'est-à-dire compte tenu de la multiplicité de choses, d'événements possibles, de bien en mal, aussi bien qu'en mal, il avait choisi l'optimal. Mais dans la vie, il y a d'autres manières de simplifier que d'optimiser. C'est-à-dire de faire un choix parmi tous les possibles. Il y a la simplification au sens cartésien, par exemple, aussi. Descartes, il disait, je ne veux pas engager tous les possibles, au contraire, je vais hiérarchiser et ne retenir que simplifier les choses. Donc, évacuer les faux problèmes, évacuer. Sur un chemin, essayer de me tenir à une ligne droite, avoir une certaine résolution quand j'ai pris une décision. Il y a d'autres manières, mais donc, ne nous laissons pas que l'optimisation ne devienne pas la seule solution que nous avons face à la complexité. On voit que dans tous les domaines, que ce soit pour la décision d'un budget aussi bien que pour choisir ses vacances.
Au hasard.
L'optimisation, c'est pas toujours optimal.
C'est pas toujours optimal. Je voudrais juste vous lire deux messages d'auditeurs qu'on vient de recevoir. Annick qui nous dit « Le thème de votre émission me fait penser à ce que m'avait dit une personne âgée de 80 ans. Il ne faut pas se prendre la tête. Seulement, on s'en aperçoit trop tard. J'essaie de me souvenir de cette phrase, mais elle n'est pas facile à appliquer. Je vous comprends, Annick. » Et Brigitte nous dit « Je suis beaucoup mieux organisée, moins débordée depuis que j'ai appris à dire non. Avant, je me retrouvais face à plusieurs choses en même temps et au dernier moment. Voilà, apprendre à dire non, c'est aussi une façon peut-être parfois de se simplifier la vie. Martin Legros, j'aimerais juste qu'on revienne aussi sur ce qu'on disait précédemment. Vous avez donné la parole à la psychologue Gabrielle Adams et elle développe une idée que j'ai trouvée extrêmement intéressante, qui est cette idée de la soustraction. En fait, on aurait tendance à associer l'amélioration de la vie, de notre existence en fait, au fait d'avoir plus, d'ajouter des choses à sa vie. Vous voyez Marion Meusette d'Orion, de s'en rajouter des rendez-vous tous les jours. Mais on oublie qu'on a aussi la possibilité de soustraire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer précisément ce qu'elle veut dire.
C'est des expériences qui ont été faites, qui sont des expériences de psychologie sociale. Gabrielle Adams, par exemple, elle a fait une expérience en disant, en proposant à des gens, ben voilà, nous avons une offre d'un séjour hôtelier. Cette offre existe. Qu'est-ce que vous croyez qu'est-ce qui pourrait améliorer cette offre? Et dans la très grande majorité des cas, les personnes disaient « Ah, il faudrait ajouter ceci. Ah, il faudrait ajouter ceci. Ah, il faudrait ajouter, un spa. Il faudrait ajouter une balade en forêt. Il faudrait ajouter... » Mais jamais personne ne disait sur la carte « Il faut simplifier, il faut retrancher. » Or, dans un restaurant, je ne sais pas si... dans certains restaurants chinois, par exemple, il y a 350 entrées. Moi, je suis perdu devant ces 350 entrées. Je ne sais jamais quoi faire. Alors que si quelqu'un vient me présenter qu'il y a 4 ou 5, le menu du jour avec 4 ou 5, je trouve ça tellement plus facile, tellement plus simple. Je ne fais pas de critique, j'adore le restaurant chinois, pareil. Heurter personne. Mais simplement, vous voyez, pourquoi est-ce qu'on croit qu'en ajoutant, c'est toujours mieux?
Ouais.
On le voit, excusez-moi de revenir à des choses très terre-à-terre, sur le budget, on voit qu'on a ajouté des niches, on a agité des mesures, et aujourd'hui, on a une sorte de construction fiscale ou budgétaire, qui est devenue un truc impossible, parce que si on enlève d'un côté, et donc,
Moment où on vous prononce le mot simplification administrative en permanence.
Ouais. Et pensons simplement aussi à la crise écologique dans laquelle on est. La crise écologique, c'est le fait qu'il n'y a plus la nature en face de nous, mais que la nature est devenue pétrie d'actions et de technologies humaines. L'anthropocène, c'est une nature qui est devenue humaine. Et donc, c'est très difficile de simplifier. Donc, je ne veux pas résoudre les problèmes. Ce n'est pas facile de soustraire. Mais tout de même, ce que nous invite à penser Gabrielle Adam, la psychologue dont vous parliez, c'est que face aux difficultés, il ne faut pas toujours croire que c'est en rajoutant, parce qu'il y a un biais premier psychologique, on croit que si on enlève, on va être plus pauvre, on va perdre. Or non, il y a des espaces, pensons à l'architecture, il y a des espaces qui sont magnifiques parce qu'ils sont épurés,
ouais,
parce qu'ils sont
sains,
parce qu'ils ne sont pas surchargés. Et donc la ligne de l'épure peut être une ligne non seulement esthétique, mais pratique. Elle donne un autre exemple, et j'arrête là, pour l'apprentissage du vélo, on sait que c'est beaucoup plus simple quand les enfants apprennent avec des vélos qui ont soit pas de roues, ils commencent à pédaler, soit simplement deux roues, on leur rajoute quatre roues qui compliquent tout l'apprentissage du vélo. Ben voilà, complication inutile.
Marion Meusette-D'Orion, vous avez compris.
La deuxième plutôt que les petites roulettes. On en a un autre exemple dans nos métiers à tous ici autour de cette table, qui sont les métiers d'écriture et de parole. Quand on demande à des jeunes journalistes de retravailler leur texte ou de l'améliorer, leur tendance va être d'apporter toujours des précisions. Or, souvent, c'est justement en enlevant des mots, en enlevant des adjectifs, en réfléchissant à au fond, qu'est-ce que je veux dire et s'y tenir, qu'on arrive à un bien meilleur texte.
Oui, la cohérence aussi, ouais. C'est ça, savoir la cohérence. Marion Meusette-D'Orion, vous avez cette expérience-là dans l'écriture?
Dans l'écriture du spectacle, c'est totalement ça. Moi, quand je travaille en co-écriture, en mise en scène avec d'autres artistes, et à chaque fois, le travail, c'est le même. Je dis, dans un premier temps, ne te censure jamais. Écris tout ce que tu souhaites, même ce qu'il y a de plus sombre, de plus mauvais, de plus atroce. Au pire, ça restera un carnet secret. Et dans un deuxième temps, on n'est pas là pour faire son séance psy face à un public. Ça doit être du divertissement et puis un moment agréable, même si le sujet peut être complexe ou dur, il faut que ça reste travaillé. Il faut transformer sa colère, sa peine, en faire quelque chose d'artistique. Et du coup, il faut enlever. Il faut enlever des mots, il faut enlever des tournures. Souvent, en quatre phrases, il faut en enlever trois et il y en a une qui était parfaite et qui résumait les quatre autres. C'est souvent ça.
Ouais. Et alors, ça me fait penser à une chose. Martin Legros, vous êtes philosophe, vous revendiquez ce droit à la complexité et parfois même à la complication dans votre démarche intellectuelle. C'est-à-dire que finalement, se compliquer la vie, ça peut être créatif.
Oui, alors je différencierais les ordres, comme dit Pascal. Je crois que dans le registre de la pensée, les distinctions, les définitions, la capacité à hiérarchiser, c'est-à-dire à simplifier les choses, est essentielle. Et pour cela, je suis un peu cartésien, on dit que Descartes a créé toutes les catastrophes de la modernité. Descartes, il avait cette idée de faire une sorte de table rase et de s'affronter difficulté après difficulté. Et ça, c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'engage sur un chemin et qui s'y tient de manière résolue. Et ça, je trouve que intellectuellement, moi, je suis toujours face à un texte, quand je suis face à un philosophe qui parvient à dégager un problème pour rester résolu à le traiter et à tenir à ce problème-là, et pas en traiter plein d'autres en chemin et abandonner son problème, je dis, je m'incline. Et donc ça, c'est dans l'ordre intellectuel. Par contre, bon, c'est un peu arbitraire, je crois que dans la vie, quelqu'un qui procéderait comme ça... serait invivable.
Ouais.
Je crois que dans la vie, il faut au contraire être disposé, puisque la vie n'est pas un objet intellectuel, elle n'est pas dans ma tête, c'est pas une prise de tête, justement, la vie, c'est une confrontation, une ouverture au possible, comme disait Bergson. Et pour s'ouvrir au possible, il ne faut pas simplifier, il ne faut pas être en attente d'une solution, il ne faut pas être résolu, il faut être disponible, ouvert aux choses. Et donc, je distinguerai l'ordre existentiel, où il faut faire preuve de plus de complications ou d'ouverture au possible, et l'ordre intellectuel où la simplification ou la capacité à simplifier un problème est essentielle.
Ouais. Héloïse Lérété.
Alors moi j'opérais une autre distinction plus sémantique, disons sur les mots, entre complexe et compliqué. C'est pas tout à fait la même chose. Ce qui est complexe, c'est ce qui comprend plusieurs facettes ou plusieurs éléments, disons multiples, et souvent interdépendants. Ce qui rend l'ensemble ou la personnalité
riche,
et difficile à comprendre, mais riche. Ce qui est compliqué, c'est ce qui est confus, au fond. Vous savez, ça vient de l'étymologie plié l'un sur l'autre. On ne voit pas ce qu'il y a dedans. C'est pour ça que ça correspond bien à l'image du millefeuille administratif, par exemple, ou à la bureaucratie, où tout devient illisible tellement c'est compliqué, ou la personnalité qui est dans un espèce de brouillard mental. Pour moi, la complication relève plus de cette confusion, de ce brouillard mental. Elle vient s'opposer à une forme de clarté mentale, de lucidité. Et au fond, moi, que ce soit dans la sphère intellectuelle ou dans la sphère existentielle, c'est avant tout cette clarté, cette lucidité à laquelle j'aspire, qui est très difficile à trouver, mais je crois que c'est ça qu'il faut essayer de viser.
Marion Mézadorian, sans la complexité, il n'y aurait pas eu de spectacle.
Ça, c'est sûr. Mais je viens de penser, c'est vrai, en vous écoutant, que depuis que je suis petite, je ne comprenais jamais quand les gens me disaient « je t'expliquerai plus tard, c'est compliqué ». Et même encore aujourd'hui, hein, quand mes amis me disent « Non, mais je t'expliquerai plus tard, c'est compliqué. » Ah, pas du tout. Moi, non, vraiment, prends une minute, je t'assure que, en fait, c'est juste que tu ne veux pas faire un choix, c'est souvent ça.
Ouais, c'est le choix. Oui, c'est ce que vous disiez, c'est le choix, c'est la prise de parole.
Oui,
faire un effort aussi,
c'est
d'aller vers l'autre.
C'est souvent très simple, mais en fait, le c'est compliqué, c'est « Non, je ne veux pas affronter, viens, on met ça de côté, et puis je te raconterai dans deux semaines quand ça sera pire. » Et souvent, je me rends compte que ça... Et depuis petite, je ne comprends pas quand on me dit c'est compliqué. Et je sais que non, en fait, il y a un ou deux ou trois choix à faire, mais il faut l'affronter, quoi.
C'est mais Marion, vous êtes quand même d'accord que quelqu'un qui viendrait vous dire de toute façon, je ne sais pas moi, le conflit au Proche-Orient, c'est pas compliqué du tout, c'est très simple.
Alors, j'ai rarement eu des amis qui m'ont dit dans leur quotidien...
Non, mais je veux dire, il y a des choses dont la complication, et les démagogues disent tout est simple. Vous voyez, c'est-à-dire...
Bien sûr. Alors là, c'est vrai que je parlais pour le quotidien.
Mais vous parlez dans votre spectacle de l'Arménie, quelqu'un qui viendrait dire que cette histoire est très très simple.
Il y a deux camps, il y a des populations, il y a une histoire, il y a des points de vue, il y a même différents points de vue dans le même camp. Et
Mais Martin, on dirait plutôt qu'elle est complexe, parce que si compliqué. On dit qu'elle est compliquée, c'est une façon souvent de fermer la discussion faire l'effort de la clarifier.
C'est compliqué, comme les parents disent c'est compliqué pour un cache-sexe, on ne veut pas t'en parler.
Exactement.
Mais il y a quand même des complexité ou des complications qui sont...
Là, c'est complexe, on va le dire.
Et je dirais même qu'ils sont intéressantes.
Oui.
Si la complexité ou la complication d'une situation psychologique, professionnelle, etc., c'est intéressant.
France Inter. Grand bien vous fasse. Eva Rock.
Mais j'ai pas du tout envie que tu viennes habiter chez moi.
Comment ça, t'as pas envie?
Bah non, j'ai pas envie, j'ai pas tellement la place d'abord. Je veux vivre seule, tu comprends? Je veux pouvoir péter dans mes draps tranquilles, rentrer à n'importe quelle heure, bouffer sur un coin de table, inviter des copains, faire le ménage seulement une fois par an si ça me chante. Je ne veux pas qu'on me dise, tiens, toi qui repasses si bien les chemises. Je ne veux pas acheter la nouvelle BMW qui est fabuleuse et on paiera les traites ensemble. Je ne veux pas tes chaussettes sales dans mon panier à linge. Je ne veux pas te demander si t'es d'accord de regarder le film au lieu du sport. Je ne veux pas. Ta vie, c'est ta vie, ma vie, c'est ma vie.
Voilà, extrait du film La Crise de Colline Serrault, Marion Mesadorian. Je crois que c'est une référence cinématographique que nous partageons toutes les deux. Alors, je voudrais justement vous lire un message de Momo qui vient de nous dire « Se simplifier la vie peut aussi tourner à une forme d'égoïsme. En s'évitant d'avoir des enfants, de trop réfléchir et de s'imposer un mode de vie compatible aux enjeux climatiques, on privilégie peut-être un épanouissement personnel, mais à quel prix ?» Est-ce que vous voulez réagir à ce message de Momo, Martin Legros?
Je trouve ça très juste. Il y a une tendance face à la complexité ou la complication généralisée de la vie sociale, de la vie professionnelle, de la vie familiale. Il y a une option qui serait le lâcher prise, c'est-à-dire au sens vulgaire du terme. Je refuse de prendre des responsabilités, je sors du jeu, je ne me mouille plus les mains parce que c'est devenu trop compliqué. Et on peut dire que c'est une forme de... C'est inquiétant parce que si les nouvelles générations ne veulent plus participer, je dirais, à la vie sociale, à la vie professionnelle dès qu'il y a une adversité, c'est un problème. Donc il ne faudrait pas que la confrontation à l'adversité, à la complexité, se résolve en je sors du jeu, oui. je quitte. Et donc, en effet, moi je crois que c'est ni en disant tout est simple, ni en disant tout est compliqué, c'est en trouvant une articulation subtile entre ma propre complexion intérieure, qui je suis, être un peu clair sur dans quoi je suis plus agile. Est-ce que je suis plus agile à me coltiner comme le personnage de Marion avec plein de difficultés en même temps, ou est-ce que je suis plus agile à poursuivre de manière résolue un seul objectif dans ma vie. Les deux sont très très bien, mais c'est des tempéraments différents. Et face à cela, il y a aussi des vies, des situations dans mon entreprise, dans ma vie familiale. Des gens font l'objet de difficultés. Eh bien, il faut trier les difficultés qui comptent et celles qui ne comptent pas. C'est un travail, c'est difficile, c'est douloureux. Mais au bout du chemin, la satisfaction est autrement plus intéressante que celle de celui qui est sorti du chemin et qui a dit « je ne me coltine pas avec la difficulté ».
Claire Destacan, qui réalise l'émission, m'a dit il y a une, deux secondes, en fait, simplifier, c'est du travail, Marion Mesadorian.
Totalement. Totalement.
C'est un travail quotidien, en fait.
Oui. Moi, je trouve que c'est faire des choix. Hein, c'est d'enlever des choses, de revoir. Puis pour revenir à l'auditeur Momo, moi, j'ai de nombreux amis qui font le choix de ne pas avoir d'enfants et qui ont la même phrase. Tant pis, je suis égoïste, mais je préfère cette vie-là. Et je ne trouve pas ça égoïste du tout.
C'est un choix de vie, c'est ça ?
Je trouve qu'à la limite, ce qui est plus égoïste, c'est d'avoir un enfant et de ne pas s'en occuper. Je trouve. Et je ne trouve pas ça du tout égoïste de ne pas vouloir d'enfant et de faire le choix de ne pas en avoir, en tout cas.
Dans Philosophie Magazine, Martin Legros, vous proposez un test. Alors, pour savoir quels compliqués nous sommes, il y a quatre profils, l'improvisateur, le prévoyant, le flexible et le méthodique.
Excusez-moi, Eva, comment sortir de la complication, c'est-à-dire par le biais de la prévoyance, par le biais de la simplification. Ce sont des manières un petit peu de sortir. C'est pas une manière de compliquer sa vie qu'on propose.
Ah oui, non, j'ai bien compris. Non, mais le test, vous êtes d'accord avec moi, il est sous mes yeux. Quel compliqué êtes-vous? C'est bien le thème de...
Comment en sortir, quoi.
Oui, comment en sortir? Et donc, le test, il va reposer sur deux axes et deux options, c'est-à-dire qu'il y a le lâcher-prise versus programmation et un axe, le vide, le plein. Ouais. Cette notion de lâcher-prise, vous venez de nous en parler, elle est déterminante dans cette capacité qu'on a parfois à se compliquer ou se simplifier la vie. Et ce test, évidemment, on l'a tous fait. C'est l'heure des résultats. Martin Legros, vous êtes quoi?
Alors, je me rêve, en tout cas, parce que c'est un peu une idéalisation, je me rêve en improvisateur bergsonien dans la vie, c'est-à-dire quelqu'un qui est disponible et qui ne va pas nécessairement anticiper, par exemple, dans ses vacances, savoir au jour le jour qu'est-ce qui se passe, du matin au soir, avoir un programme prédéterminé, avoir fait toutes les courses, etc. Donc, je me rêve plutôt en improvisateur disponible pour ceux qui se présentent. Mais dans la vie intellectuelle, c'est là où ça se complique, je suis un peu plus cartésien, c'est-à-dire j'aime à simplifier les choses et pas non plus à avoir pour mes vacances 15 programmes dans la journée à réaliser.
Bon, vous n'avez pas répondu à la question, donc clairement.
C'était complexe.
Héloïse Lérété, étiez quoi, vous?
Moi, je suis le flexible avec Chuang Tzu.
Est-ce que vous êtes reconnue dans ce profil ou pas?
Oui, plutôt. J'étais pas loin de l'improvisatrice aussi, donc ça veut sans doute dire que je ne suis pas tout à fait méthodique et dans l'anticipation et la planification, mais je m'adapte.
Oui, vous prenez la vie comme elle vient.
Je suis souple.
Et savez vivre avec peu.
Je réagis. Alors, ça va
un peu loin parce que Philosophie Magazine me dit que je pourrais tenter de rejoindre une communauté dans les Cévennes pour échapper à la frénésie de la vie urbaine. Je ne suis pas vraiment tentée, mais ceci dit, je me sens bien flexible au sens où il me semble bon d'avoir des oscillations dans sa vie entre des moments de stimulation, disons, et des moments d'introspection, justement, qui permettent de mieux habiter ses choix de vie.
Voilà. Marion Mezzadori, on est pareil.
Ah,
on,
oui.
on est méthodique, nous.
Ah, oui, je me reconnais bien.
On a un problème, on essaie de le résoudre.
Oui, terminé. Moi, voilà. Ça y est, chaque année, j'essaie d'avancer.
Voilà. tous les jours, vous savez, nous terminons avec nos coups de cœur, c'est-à-dire, chers invités, on vous demande comment on pourrait poursuivre la réflexion sur le thème que nous avons abordé ce matin, comment ne pas se compliquer la vie. Est-ce que notre conversation vous a fait penser à un film, un livre, une chanson, une citation, peut-être un son, Héloïse Lhéreté ?
Ah, j'hésite un peu. Allez, je vais citer Marc Aurèle, philosophe du IIe siècle, c'est le dernier des stoïciens. C'est un philosophe, et notamment un livre pensé pour moi-même qui me touche beaucoup, parce que c'est pas du tout un livre spéculatif, c'est vraiment, on y voit vraiment quelqu'un qui est pris au moment de la peste antonine, il y a 10 millions de morts, il est lui-même très fragilisé, malade, et il essaie de sculpter non pas une théorie, mais vraiment une personne, on le voit s'efforcer de se rendre mieux capable d'aimer les autres, mieux capable de s'émerveiller devant la nature, devant le jour qui se lève chaque matin, de réagir avec tact au malheur d'autrui. Et je trouve que c'est un bel exemple aussi pour se mouvoir dans cette vie complexe, adverse, banale.
Martin Legros ?
Alors moi, c'est un petit volume de Simone Veil qui s'intitule « Grâce et beauté », qui est un recueil de petits textes de Simone Veil qui sont principalement sur la question de l'attention. C'est magnifique, j'engage tout le monde. Et juste, quand vous aurez lu ça, vous aurez compris quelque chose sur l'attention. On croit que l'attention, dit Simone Veil, c'est la concentration sur un point. On dit « concentre-toi aux enfants ». Pas du tout, dit-elle. La concentration, c'est l'ouverture, la disponibilité. C'est un texte qui s'appelle « L'attente de Dieu ». Elle est un peu mystique, Simone Veil, mais c'est la disponibilité, l'ouverture au possible. Être attentif, c'est être capable de voir surgir quelque chose que je n'avais pas planifié, qui n'était pas prévu. C'est ça la véritable attention. Et elle est, dit-elle, dans toutes nos activités, l'activité qu'il faut absolument cultiver et qui est menacée, j'ajouterais, aujourd'hui par les écrans.
Eh oui, Marion Mezzadori.
Alors moi, pour revenir au théâtre et au cinéma, je reviendrai juste sur le monologue de Maria Pacôme dans La Crise.
Bien sûr.
J'invite toutes les personnes à l'écouter ou le réécouter, puisque ça parle quand même d'amour, et un amour libre et aussi une vie.
Je suis sûre que vous le connaissez par cœur. On le connaît par cœur toutes les deux. Merci infiniment à tous les trois. Marion Mezzadori, on vous laisse filer à Avignon. Ce soir et demain, à 19h30 à la Scala, vous jouez Craquage, mon coup de cœur de cette année. Pour la tournée, les prochains spectacles, toutes les dates sont à retrouver sur la page de l'émission via l'application Radio France, et j'espère vous retrouver dans ce studio bientôt. Philosophie Magazine et Sciences Humaines, il suffit de se rendre au kiosque et chez vos marchands de journaux. Immense merci Martin Legros et Héloïse Lhéreté. Vous me montrez quelque chose,
notre nouveau numéro en kiosque,
qu'est-ce qui nous relie
à notre enfance.
Voilà, c'est pour Sciences Humaines. Merci beaucoup Héloïse. Et puis ce matin, elle me simplifie la vie au quotidien, je vous assure. Claire Destacan à la réalisation, Jessica Bagic, Anna Massardier, Noélia Filliol et Elina Garcia à la préparation de l'émission, et puis à la technique ce matin, Tiffany Baptistel et Florian Dorimini.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.